7h30 à Paris, 1h de moins en temps universel. Merci d'écouter RFI. C'est l'heure du journal. Bonjour Xavier Besson.
Bonjour Andréane, bonjour à tous. Le Mozambique retient son souffle ce mercredi, marque le coup d'envoi de 3 jours de manifestation à l'appel de l'opposant Venancio Mondlane contre ce qu'il qualifie de fraude électorale. Et Maputo, la capitale mozambicaine, tourne déjà au ralenti. Dans ce journal également, le Somaliland, jour d'élection présidentielle dans ce territoire indépendant de la Somalie depuis 1991, mais non reconnu international. Le Tchad et la déconvenue du secrétaire général du MPS, le parti qui soutient le président tchadien. Son dossier de candidature pour les prochaines législatives en décembre. Son dossier a été retoqué en raison d'une condamnation. On parle aussi du déplacement en Ouganda de députés de République démocratique du Congo, commerce et sécurité au programme. Et notre dossier ce matin nous emmène à Nairobi, au Festival international de théâtre du Kenya, où il est question en fait de bien plus que de théâtre. À quoi faut-il s'attendre aujourd'hui au Mozambique, aujourd'hui et même demain et après-demain? Le principal opposant, Venancio Mondlane, appelle à 3 jours de manifestation, contestation toujours contre les résultats de l'élection présidentielle et la victoire officiellement de Daniel Chapo, le candidat du parti au pouvoir. Alors que depuis l'annonce de ces résultats, on estime qu'au moins 30 personnes ont été tuées dans la répression des précédents rassemblements de l'opposition et que le centre-ville de Maputo, la capitale, est déjà quasiment totalement à l'arrêt. Amélie Tulé.
Sur l'avenue Karl Marx, il n'y a pas âme qui vive. Olga Raimundo y vend des sodas. Elle gagne environ 200 métikaïches par jour, moins de 3 euros. Mais aujourd'hui encore, elle doit fermer boutique.
J'ai peur qu'il m'arrive quelque chose. J'ai des enfants. Et si on me tire dessus? Les manifestations nous coûtent à nous qui vendons dans la rue. Mais c'est peut-être aussi une bonne chose. Le prix de la nourriture a augmenté. On ne peut pas envoyer nos enfants à l'université. Les choses basiques coûtent cher.
Julieta Domingos vend des tickets de loterie. Depuis le début de la contestation, elle a perdu près de 2000 métikaïches, soit 30 euros, près du tiers de son loyer, ce qui n'empêche pas son engagement dans la contestation.
Ça fait presque 15 jours que je ne travaille pas. Moi, je ne gagne de l'argent que si je sors. Ils disent qu'il faut des sacrifices pour que les choses aillent mieux. Alors nous devons manifester. Moi, je crois qu'il va y avoir du changement.
Le nez sous un capot, Moïsès, 20 ans, répare des voitures. Son garage, c'est la rue Agostinho Neto, car il n'a pas les moyens d'avoir un local et ne trouve pas d'emploi.
En vérité, j'ai déjà perdu beaucoup d'argent, mais je soutiens le mouvement. Ça en vaut la peine, parce que ça fait 50 ans que l'on souffre. On est fatigué de vivre depuis 49 ans avec un seul parti qui ne fait rien. On ne vit pas, on survit.
D'après le Centre pour l'intégrité publique, une organisation de la société civile, la contestation électorale a déjà coûté au Mozambique près de 360 millions d'euros.
Amélie Tulé, des violences préélectorales qui ont marqué la campagne au Somaliland, ce territoire du nord de la Somalie qui a déclaré son indépendance de manière unilatérale en 1991, qui choisit son président pour la 4e fois aujourd'hui. Le sortant Moussebi brigue un 2e mandat et au-delà des violences de ces derniers mois, l'enjeu c'est aussi de continuer à démontrer la stabilité démocratique pour ce territoire en quête de légitimité internationale. Analyse Omar Mahmoud, chercheur à l'International Crisis Group.
Chaque élection organisée au Somaliland est plus contestée que la précédente. Le climat est de plus en plus politisé. Il reflète souvent des enjeux de rivalité entre clans et la crainte de voir les résultats contestés grandit. Cette fois, la campagne électorale a été particulièrement tendue. Il a même été difficile d'en arriver à cette élection. Il y a eu en amont des manifestations, des épisodes de rébellion. Ces élections sont donc une occasion de repartir sur de meilleures bases. Jusqu'à présent, les politiciens au Somaliland ont plutôt mis de côté leurs ambitions personnelles pour un objectif commun, celui de l'indépendance du pays. Mais on sent que cet impératif s'est affaibli avec le temps. Donc, cette élection sera un véritable test pour savoir si cet état d'esprit prévaut toujours ou si les ambitions personnelles l'emportent. C'est sans doute le plus grand test pour la Somaliland à ce jour. Et l'issue est très incertaine.
Omar Mahmoud, chercheur de l'International Crisis Group, joint par Florence Maurice. Au Tchad, là, ce sont les élections législatives qui se profilent fin décembre. Hier, on a appris que plusieurs candidats du MPS, c'est-à-dire le parti qui soutient le chef de l'État, plusieurs candidats ont vu leur dossier recalé. La raison, ils ont été condamnés par le passé à de la prison ferme, notamment pour des détournements de fonds publics. Et parmi eux se trouve le secrétaire général du MPS, N'Djamena. Les précisions de notre correspondant, Carole Valade.
Au moins 5 candidats du MPS aux élections législatives sont déboutés pour avoir été condamnés à de la prison ferme, 4 d'entre eux pour détournement de fonds publics, selon les lettres de rejet consultées et authentifiées par RFI, dont le secrétaire général du parti, Mahamat Zenbada, qui voit son dossier rejeté en raison d'une condamnation pour faux et usage de faux en écriture publique et pour détournement de deniers publics en 2012. Mahamat Zenbada a certes bénéficié d'une grâce présidentielle par la suite, mais en droit tchadien, la grâce laisse subsister la condamnation au casier judiciaire, à la différence de l'amnistie. Selon l'Agence nationale de gestion des élections, le casier vierge présenté par le candidat serait donc un faux. Le MPS procède actuellement à des vérifications, dit son porte-parole Issa Doubragne, et se tiendra aux côtés des candidats non retenus pour des recours éventuels qui devront donc être déposés sous 5 jours au Conseil constitutionnel. Carole Valade, N'Djamena, RFI.
Et la campagne électorale en ce moment au Sénégal, c'est dimanche que les Sénégalais choisiront leurs députés. Hier, le Premier ministre Ousmane Sonko, chef de file de la liste du PASTEF, Ousmane Sonko a préféré faire machine arrière et dans la soirée, il a appelé au calme après avoir incité ses partisans, je cite, à se venger de violences commises selon lui par des opposants. N'attaquez personne, ne frappez personne, ne provoquez personne, a donc fini par dire hier Ousmane Sonko.
RFI.
Et on parle commerce et sécurité. Une délégation de députés de la République démocratique du Congo est en ce moment en Ouganda, Kampala, voisin et partenaire stratégique de Kinshasa. Par exemple, les armées des deux pays mènent en ce moment des opérations communes contre les rebelles ADF dans l'Est congolais. À Kinshasa, Patient Ligodi.
Cette mission parlementaire s'inscrit dans le cadre de la coopération interparlementaire bilatérale. Plusieurs rencontres sont prévues, notamment avec Anita Enet Among, présidente du Parlement ougandais, ainsi qu'avec des responsables de commissions parlementaires et potentiellement des membres du gouvernement ougandais. L'objectif principal est d'évaluer l'exécution des accords existants entre la RDC et l'Ouganda. Parmi ces accords figurent des projets d'infrastructure décidés en juin 2021 entre Yoweri Museveni et Félix Tshisekedi. Ils concernent la construction et la réhabilitation des routes importantes reliant les deux pays. Des discussions sont également prévues autour des accords commerciaux entre les deux pays. L'Ouganda exporte notamment des matériaux de construction et des produits manufacturés vers l'est de la RDC, tandis que le Congo-Kinshasa exporte du thé, du café et du cacao vers l'Ouganda. Ce dernier est parfois accusé d'être une porte de sortie pour des produits de contrebande provenant de la République démocratique du Congo. La question de l'exploitation pétrolière sur le lac Albert pourrait également être abordée. Enfin, les parlementaires congolais souhaitent évaluer l'opération Shuja avec pour objectif d'accroître son efficacité et de consolider les récentes avancées des armées congolaises et ougandaises sur le terrain. Patient Ligodi, Kinshasa, RFI.
Et Kinshasa, par ailleurs, où débute aujourd'hui, pour durer jusqu'à vendredi, le forum économique Makutano. Sont attendus une centaine de chefs d'entreprise, des membres du gouvernement et même le président Félix Tshisekedi. Cette année, c'est la 10e édition et c'est l'occasion de tirer le bilan des 10 premières années. À Kinshasa, Paulina Zidi.
Le MAC10, la 10e édition de Makutano. Makutano, c'est une main tendue, selon l'un de ses fondateurs, Yves Kabongo, à tous ceux qui aiment vraiment l'Afrique.
Eh bien, l'Afrique, déjà, je ne peux pas amener un projet qui ferait que notre système environnemental soit complètement endommagé. Ça, c'est déjà aimer l'Afrique. Aimer l'Afrique, c'est de m'assurer que lorsque je crée des emplois, que ce soit des emplois de bonne qualité et que nous puissions avoir des structures d'investissement, des entreprises qui soient pérennes. C'est ça, aimer l'Afrique. Pas seulement aimer l'argent. On aime tous l'argent. Mais à un moment donné, il faut mettre aussi les gens autour.
Les intervenants vont débattre autour de plusieurs thématiques comme les énergies, l'industrie minière, la finance, les nouvelles technologies, mais aussi la santé, un domaine cher à Serge Olin, médecin, ancien vice-ministre de la Santé de la RDC.
Quand on parle santé, les gens ne voient que le ministère de la Santé. Mais en fait, c'est un sujet qui est complexe, qui fait intervenir tous les autres acteurs qui contribuent aux déterminants de la santé. Un événement comme celui-ci, justement, a l'avantage de mettre sur la même table les différents acteurs du secteur de la santé, du secteur de l'économie, et le Makutano comme un événement fédérateur, mais aussi un moment de prise de conscience. conscience. Comme je l'ai dit, la première des choses même pour se développer est de prendre conscience de son état et de vouloir s'améliorer.
Mais ce n'est pas suffisant, rappelle Serge Olin. Un événement dans l'année ne va pas changer radicalement les choses. Pour lui, il faut plus de formation et d'échanges entre les différents acteurs du développement économique. Pauline Azidi, Kinshasa, RFI.
Dans l'actualité ce matin également, l'Union européenne qui ne renouvelle pas son accord de pêche avec le Sénégal. Bruxelles met en avant des défaillances dans la lutte contre la pêche illégale. Une mesure qui a pour conséquence immédiate que dès ce dimanche, les bateaux européens, espagnols et français en l'occurrence, ces bateaux ne pourront plus pêcher au large du Sénégal, lieu qui a versé à Dakar 10 milliards de francs CFA depuis 2019. Dans le cadre de cet accord, les sports débutent aujourd'hui de la dernière session de qualification pour la prochaine CAN de football. 3 matchs ce mercredi. Le Tchad peut continuer de rêver à une première participation à la Coupe d'Afrique, mais il faudra pour cela s'imposer contre la Sierra Leone. Pareil pour le Togo contre le Liberia. Pas de tracas en revanche pour le Cameroun, déjà qualifié. Et les Lions Indomptables affrontent cet après-midi la Namibie. Enfin, avant de retrouver Andréane Mellard, notre dossier ce matin nous emmène à Nairobi pour le Kidfest, festival international de théâtre du Kenya, mais en fait c'est même un peu plus que cela, puisqu'il y a aussi de la poésie, du chant, de la danse, des spectacles de marionnettes également, avec des artistes kényans et internationaux. Qu'ont-ils à dire ? Reportage d'Alban Tiroir.
Dernière répétition pour cette troupe avant la représentation du soir. La performance des acteurs mélange musique et narration. The Big Boys of Shibale évoque la vie d'un village affecté par la fermeture d'une usine de sucre. C'est la deuxième fois que la pièce est présentée au festival. Marc Wabouré en est l'auteur et directeur. Il compte sur le Kidfest pour la mettre en avant.
Le grand public au Kenya n'a pas vraiment adopté le théâtre comme activité de loisir. Donc gagner de l'argent pour les artistes, c'est difficile. Parfois, il faut faire un autre travail à côté. Nous, ces dernières années, nous avons investi notre propre argent pour monter notre spectacle. Là, à la fin de cette représentation, nous allons lancer un appel aux dons pour pouvoir nous produire en Ouganda.
Les danseurs tanzaniens de Waka Waka s'apprêtent eux aussi à se produire sur scène. Zingo est l'un des artistes de la troupe. Danseur depuis 15 ans, il a monté une école de danse à Dar es Salaam pour vivre de sa passion.
Vivre comme un artiste en Tanzanie, ce n'est pas facile. Nous le faisons parce que nous sommes passionnés. Mais c'est difficile d'être pris au sérieux. Pendant longtemps, la danse était vue comme un loisir et non comme une carrière professionnelle. Nous disions à nos parents que nous voulions être artistes. Ils nous répondaient dès qu'on était fou. Heureusement, les mentalités évoluent petit à petit.
Au festival, les représentations s'enchaînent, de quoi encourager les artistes qui restent optimistes de voir l'art du spectacle gagner en popularité. Alban Tiroir, Nairobi, RFI.
Un gain en popularité qui se traduit par un festival qui s'étoffe et qui s'allonge même chaque année. Là, c'est la 9e édition et le directeur du Kid Festival, Benson Gobia, veut voir encore plus grand.
Pendant longtemps, l'art du spectacle n'a pas été perçu comme une activité économique au Kenya. Quand une personne disait être acteur, producteur ou danseur, la société ne la voyait pas comme une personne sérieuse. Alors que l'art théâtral fait partie intégrante de la culture kenyane. Les enfants écoutent des histoires le soir, dansent pendant les cérémonies. Ceux qui grandissent au village sont habitués aux danses pendant les récoltes. Lors des rites de passage comme la circoncision, il y a aussi des danses, des chants, des récits. Mais la culture d'aller dans un théâtre pour assister à un spectacle vient plutôt de l'Occident. Nous l'avons adopté petit à petit et aujourd'hui nous avons un modèle qui reprend l'art du spectacle traditionnel africain, mais monté sur des planches. Dans les régions rurales, c'est vrai qu'il n'y a pas encore forcément de théâtre professionnel ou commercialisé, mais plutôt du théâtre communautaire, c'est-à-dire du théâtre pour le développement par exemple. Les ONG ou le gouvernement notamment utilisent ces espaces pour faire passer un message, mais finalement dans ces zones rurales aussi, le théâtre reste populaire, même si moins commercialisé que dans les grandes villes.
Le directeur du Festival international du théâtre de Nairobi au Kenya, où il est maintenant 9h44, et vous êtes avec Andréane Mellard pour la suite des RFI Matin.